Si les livres des songes, les clés pour la révélation du futur, ont gardé leur public, c'est plutôt à la psychanalyse que s'adresse aujourd'hui, pour l'essentiel, du moins en Occident, la demande d'analyse des rêves. Les lecteurs de Freud savent qu'un rêve se nourrit de souvenirs et porte la marque des origines, de l'enfance. Faut-il pour autant méconnaître les caractères et les fonctionnements anciens du songe ? Car c'est bien à la suite d'un profond bouleversement que le rêve a été, à un moment de son histoire, orienté vers le passé et que son opacité est devenue celle du refoulé. Auparavant, pendant des millénaires, de l'Antiquité classique, sémitique ou barbare au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, il était presque exclusivement tourné vers l'avenir, la préfiguration, l'inconnu. Cette série d'émissions abordera le phénomène du rêve à travers ceux qui ont été produits, conservés, répertoriés et interprétés dans l'Antiquité méditerranéenne et plus particulièrement dans l'Ancienne Égypte, en Mésopotamie et dans le monde grec. Aujourd'hui, avec Jean Yoyotte, qui est égyptologue, nous essayerons de cerner quelque chose comme une définition égyptienne du rêve en nous arrêtant tout de suite sur le mot lui-même qui signifie rêve dans l'Ancienne Égypte. Jean Yoyotte.
C'est en effet un des seuls indices abstraits que nous ayons pour cerner une définition égyptienne du rêve. Le mot qui revient toujours pour désigner un rêve est un mot qui se rattache directement à la racine veiller, s'éveiller. En quelque sorte, le rêve est défini comme un éveil dans la période de sommeil. Il faudrait évidemment définir le sommeil pour les Égyptiens. Il y a une analogie chez l'Égyptien entre le sommeil et la mort, ou plus exactement entre le sommeil et la nuit, qui correspond à une interruption provisoire de l'ordre harmonieux du monde qui, lui, est constitué par le lever et le parcours du soleil, créateur et ordonnateur de l'univers. Un détail, il n'y a pas à ma connaissance de mot pour désigner le cauchemar, le rêve en tant qu'il est inquiétant. Mais on possède un texte dans lequel ce mot est suivi d'un signe déterminatif qui représente le dieu Seth, c'est-à-dire le dieu du danger. Le sentiment que le rêve représente une menace pour l'individu nous est confirmé par une série de documents tout à fait curieux. Il s'agit de petits décrets censés émis par les dieux pour protéger un individu contre tous les genres d'ennuis qu'il peut avoir dans l'existence. Cela va des accidents de la circulation jusqu'à certaines formes de maladies. On y inclut d'être protégé contre les rêves.
On parle aussi d'ailleurs à propos de ces rêves néfastes et de la façon qu'il faut avoir pour s'en protéger, de certains appuis-têtes dont certains sont très beaux.
Oui, il est de fait qu'on peut rapporter à la protection contre le rêve ces chevets qui étaient en fait destinés à protéger le sommeil. On y voit représenter particulièrement une divinité protectrice bien connue du public, le dieu Bès, qui se spécialisait dans la défense de la mère et de leurs jeunes enfants, et aussi un certain nombre de thèmes qui assimilent en quelque sorte la tête qui pense et qui reçoit les rêves du personnage dormant, au dieu soleil lui-même qui traverse une période dangereuse pendant la nuit, celle au cours de laquelle il se reconstitue, non sans devoir repousser les forces du chaos.
Alors vous avez dit que l'homme qui dort était au contact d'un monde nocturne, et je suppose que c'est le moment où l'Égyptien communique avec les dieux.
C'est en effet un moyen de communication direct avec les dieux. Moyen de communication qui peut venir de l'initiative du dieu et qui peut venir du désir de l'individu d'être mis en contact avec les dieux, le dieu, par l'intermédiaire d'une incubation. Il faut, en matière de niromancie, toujours distinguer entre le rêve que l'on n'a pas attendu et le rêve que l'on a provoqué. L'Égyptien paraît avoir connu une version en quelque sorte officielle, sacerdotale, royale, de l'opposition entre le sacré et le profane. Il y a un espace sacré correspondant à un temps sacré qui est géré par les rites qui se font dans les temples. Et puis, il y a le temps trivial, celui où nous vivons, dans lequel se produisent parfois des irruptions de surnaturel. Car on ne peut pas, si l'on se situe dans la mentalité égyptienne, considérer, par exemple, que l'intervention d'un fantôme qui vous inflige une dangereuse maladie représente autre chose qu'un fait banal. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, il y a des quantités d'éléments que nous classerions comme surnaturels qui sont présents. Et il est assez frappant, dans une certaine mesure, de voir que ces Égyptiens, dont on connaît si bien la religiosité, ont des moments de foi, de contact personnel avec le Dieu, et ceci, disons, sur un mode particulièrement élevé, mais que pour le reste, l'irruption de ce que nous appelons le surnaturel est finalement une image relevant des plus basses superstitions. Mais c'est d'ailleurs assez frappant de voir le contraste qu'il y a entre cette oniromancie qui concernait l'État, passait par les grands dieux, impliquait généralement des apparitions divines du dieu, et puis cette préoccupation du rêve que traduisent les rares clés des songes que nous avons.
Si un homme se voit en rêve faisant l'amour avec sa mère, bon, ses concitoyens feront bande avec lui. Faisant l'amour avec sa sœur, bon, c'est que quelque chose lui sera transmis. Voyant un bœuf mort, bon, cela signifie voir la mort de ses ennemis. Se voyant une face de léopard, bon, c'est agir en chef. Faisant l'amour avec une gerboise, mauvais, un procès sera intenté contre lui. Marchant du concombre, mauvais, cela signifie que des tracas naîtront sur sa route. Son lit prenant feu, mauvais, cela signifie rapt de sa femme. Portant un habit d'asiatique, mauvais, il perdra son poste.
Il n'est pas inutile, je pense, Jean Yoyotte, de revenir sur cette distinction qui me semble fondamentale entre les rêves de particuliers et les rêves royaux dans l'ancienne Égypte.
Nous n'avons plus d'informations sur les rêves royaux qui ont été commémorés, soit par des inscriptions pour le lendemain des faits, soit, disons, par des traditions qui intègrent ces rêves royaux dans des romans historiques, que sur les rêves de particuliers, que l'on ne connaît qu'occasionnellement, surtout par la clé des songes du papyrus Chester Beatty, et puis par un choix d'inscriptions ou d'éléments de conte. Les rêves de particuliers, plus que les rêves royaux, mérite d'être divisé en deux catégories, l'une relativement bien connue, grâce aux clés des songes, l'autre beaucoup plus rarement attestée. La différence entre ces deux catégories, c'est que dans un cas, la divinité viendra personnellement parler à la personne, elle lui apparaîtra dans le rêve, il la verra et lui dira quelque chose, alors que dans les rêves de l'autre catégorie, la personne voit n'importe quoi et va s'interroger pour savoir ce que peut lui annoncer son rêve. C'est tout récemment que l'on a trouvé dans une tombe de l'époque de Ramsès II, à Thèbes, un des très rares cas, on peut dire historique, qui ne relève pas du roman ou du conte, où un personnage parle d'une apparition personnelle de la divinité. Il s'agit d'un fonctionnaire de l'administration du temple d'Amon, qui, dans sa tombe, inscrit que l'emplacement de sa tombe lui a été indiqué par l'apparition de la déesse Hathor, qui, à Thèbes, était considérée comme une sorte de personnification du génie de la nécropole, de cette fameuse nécropole thébaine que l'on visite. Et le personnage adresse dans sa tombe une sorte de petit discours à la déesse, lui rappelant dans cette prière que la déesse est venue, qu'elle s'est présentée d'ailleurs sous son diminutif de Heli, et qu'elle lui a indiqué quel était l'endroit exact où il pourrait choisir une sépulture appelée à durer. En face de cette apparition de la divinité, on trouvera bien trivial ce que l'on peut voir dans les clés des songes. On nous dit par exemple, voyant un serpent, le rêve est bon. Cela signifie provision. Là encore, le code est extrêmement simple, car pour les Égyptiens, la fécondité d'un terroir donné, voire d'une maison, était liée à la présence d'un démon protecteur prenant une forme de serpent. Ou bien encore, il mâche du concombre, c'est mauvais. Cela signifie que des tracas naîtront sur sa route. Le fait de manger du concombre était quelque chose d'assez banal, dans l'Égypte ancienne comme de nos jours. Si cela apparaît en rêve, ce doit être lié à quelques pratiques rituelles. On sait notamment que les prêtres spécialistes de la déesse Sekhmet, celle qui, diffusant les maladies, était à même de les annuler, pratiquaient un certain rite qui devait en quelque sorte constituer leur pouvoir à la fois bénéfique et maléfique en mâchant du concombre. Et la personne, se voyant mâcher du concombre, voyait en quelque sorte une image qui connotait l'idée de prêtre de Sekhmet, donc de danger. Là, nous avons besoin de recourir à la symbolique égyptienne qui pouvait médiatiser un acte aussi banal que de manger quelques cucurbitacées. Autre cas, son lit prenant feu. Mauvais, cela signifie le rapt de sa femme. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup besoin d'explication. Les rêves sexuels sont manifestement interprétés par une signification inversée de transgression par rapport aux mœurs normales, en référence à la réalisation de la famille comme moyen de s'affirmer et de réussir dans la vie. Car si on se voit faisant l'amour avec sa mère, c'est bon, ses concitoyens feront bande avec lui. Il s'agit là d'une image paradoxale de l'unité de la cellule sociale. Il est bon également de se voir faisant l'amour avec sa sœur. Quelque chose lui sera transmis. Il faut noter là d'ailleurs que nous sommes à une époque où le mot sœur pouvait indifféremment signifier la sœur et l'épouse. Un rêve très caractéristique de l'état d'esprit de l'Égyptien, on se voit habillé comme un Asiatique. Mauvais, il perdra son poste. Il s'agit d'une attitude chauvine, bien connue chez les Égyptiens comme chez bien d'autres populations, à savoir qu'il y avait incompatibilité entre le service de l'ordre public et l'appartenance à une ethnie étrangère.
Je suppose que, de toute façon, l'homme de la rue était incapable d'interpréter ses rêves. Or, ses rêves étaient bien recueillis dans des textes écrits. Alors, qui est-ce qui interprétait les rêves?
On peut supposer, n'est-ce pas, que ces jurisprudences concernant les rêves étaient recueillies par ceux des prêtres qui s'occupaient aussi de sciences médicales et de conjuration dirigée contre les émissaires venus des dieux pour exécuter leur volonté. Ceci, c'est pour, disons, l'élaboration de clés de songe qui pouvaient être placées entre toutes les mains, du moins entre les mains de tous les lettrés. La publication de ces clés des songes, assez simple, sorte d'almanach en quelque sorte, montre qu'on pouvait, à partir d'ouvrages, interpréter ses propres rêves. Et il faut rappeler que les Égyptiens, à la différence des peuples de Mésopotamie, n'ont pas été apparemment aussi obsédés de mantique, de connaissance de l'avenir, de l'événement, que les Mésopotamiens et que bien d'autres peuples. Cela est peut-être lié au fait que leur conception du devenir historique, tant collectif qu'individuel, était résolument cyclique et qu'en fait il n'y avait jamais rien de nouveau, de telle sorte que, autant pour le maintien de cet ordre cyclique, il était important que le roi tienne compte des avertissements des divinités, autant il ne semble pas que les Égyptiens aient été très préoccupés de ce qui pouvait leur advenir, et dans la masse de nos textes, autant tout ce qui peut être magie, science sacrée ou fausse science, dirigée contre la guérison d'un malheur occasionnel, est bien attesté, autant dans l'ensemble, leur mantique est assez peu connue, et probablement parce que elle jouait une moindre place dans leur société que dans d'autres.
Mon rêve, ô ma sœur, mon rêve, voici le détail de mon rêve. Alentour, foisonnaient des joncs, alentour se serraient des joncs. Un roseau isolé pencha vers moi sa tête. D'un roseau à deux tiges, l'une s'écarta de moi.
Ton rêve est de mauvais augure, mon frère. Que je voudrais ne pas avoir à l'interpréter. Les joncs qui foisonnaient autour de toi, les joncs serrés autour de toi, ce sont des assassins qui sortiront contre toi de leur embuscade. Le roseau isolé qui penchait sa tête vers toi, c'est ta mère, ta génitrice, qui penchera vers toi sa tête. Le roseau à deux tiges, dont l'une fut écartée de toi, c'est nous deux. L'un sera séparé de l'autre.
Comme dans l'ensemble du monde antique, le rêve en Mésopotamie ancienne a une valeur divinatoire. Le message envoyé par le dieu au rêveur, qui n'est pas nécessairement le destinataire de la révélation, pouvant être notifié selon deux modalités. L'une immédiate, c'est la divination inspirée. Le dieu communique de vive voix avec l'individu endormi qui est en général un roi. Et l'autre modalité relève de la divination déductive. Alors Jean Bottero, est-ce qu'on peut rapidement définir cette divination déductive et montrer quelle est la place du rêve dans cet ensemble de processus divinatoires?
La divination déductive, donc en Mésopotamie, repose sur l'idée que dans les choses qui arrivent à l'homme, il peut y avoir, telle qu'elle se présente à lui, il peut y avoir des messages. Le message est signalé par l'unicité de la chose, l'originalité de la chose, l'inattendu de la chose. Autrement dit, quand une femme a un enfant, normalement, ce n'est pas divinatoire. Mais quand elle a des jumeaux ou des triplés, ou alors quand l'un d'eux ou son enfant a une tache sur le nez, sur le front, une tache inhabituelle, ça c'est divinatoire. Tout ce qui est isolé, comme ça, tout ce qui est inattendu, est divinatoire. Alors évidemment, la chose s'entendant de toute la vie humaine et de tout le cadre de la vie humaine, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit déjà, depuis les astres jusqu'au corps de l'homme et à ce qu'il rencontre dans la rue, le rêve ne pouvait pas ne pas avoir sa place là-dedans. Alors, la différence entre la divination inspirée et la divination déductive, c'est que dans la divination inspirée, il y a un message direct qui est clair, parce qu'il est transmis de vive voix, si on peut dire. Dans la divination déductive, il est écrit comme l'écriture. Il faut connaître le code de l'écriture, il faut le déchiffrer. Alors, pour ces gens-là qui avaient étudié à fond toutes les situations divinatoires, ils s'y intéressaient beaucoup, je crois que le plus grand nombre de textes que nous ayons d'eux, proportionnellement, sont des textes sur la divination. On en a des milliers de tablettes. Alors, donc, ils avaient eux-mêmes déchiffré et codé les principales situations divinatoires dans tous les domaines. Alors, ils en ont fait des traités. Par exemple, il y a un très très gros traité d'à peu près 60 000 oracles, n'est-ce pas, sur les positions atmosphériques, les météores, la position des astres, etc. Alors, il y a aussi un traité d'oniromancie. Alors, comment arrangeait-on les choses dans le traité? On choisissait des situations divinatoires possibles, et on les décrivait rapidement, en quelques mots, et on donnait le présage après, ce qu'elles contenaient une fois décodées.
Il faut dire que les Mésopotamiens avaient vraiment l'habitude de ce type de répertoire. Ils rassemblaient en des traités ces documents.
C'était un peu leur manie. Ce sont de grands classificateurs. On a gardé d'eux pas mal d'ouvrages, n'est-ce pas, où ils classent les divers phénomènes, les divers objets. Et c'est la même chose qu'ils ont fait pour la divination déductive et pour l'oniromancie.
Je crois qu'il faut aussi préciser que cette divination déductive suppose toujours l'intervention d'un interprète.
Oui, de même que pour l'écriture, un homme ordinaire ne peut pas lire, il ne sait pas lire, il lui faut quelqu'un qui sache lire. De même, pour la divination, déductive et l'oniromancie déductive, il faut quelqu'un qui sache décoder le message écrit des dieux, n'est-ce pas ? Écrit dans le rêve, comme il peut être écrit dans la position des astres, etc. Bon. Alors il faut un spécialiste, et c'est à l'intention de ce spécialiste qu'ont été écrits les innombrables traités de divination que nous avons, dont naturellement le traité de divination par les rêves d'oniromancie. Alors le plus vieux rêve dont nous ayons mention et qui soit codé de cette façon, est du XVIIe siècle. Enfin, le texte que nous en avons est du XVIIe siècle. Je peux vous le lire, si vous voulez. C'est un cauchemar. Et voici, en même temps, ça vous donne l'idée de la façon dont se présentent les traités. Avec l'énoncé d'abord du présage, et puis l'énoncé de l'oracle qui s'ensuit. Si un homme, pendant qu'il dort, rêve que toute la ville lui tombe dessus. On ne sait pas ce que ça veut dire, que toute la ville lui tombe matériellement dessus par écroulement, ou que tous les habitants de la ville lui tombent dessus, se jettent sur lui. On ne peut pas savoir, c'est ambigu, n'est-ce pas ? Donc, si un homme, pendant qu'il dort, rêve que toute la ville lui tombe dessus, et qu'il pousse des cris, sans que personne l'entende, c'est le vrai cauchemar, voici l'oracle, cet homme a la chance chevillée au corps. Il est malheureux en rêve, il sera heureux dans la vie courante. Et ce qui suit est l'inverse. Si un homme, pendant qu'il dort, rêve que toute la ville lui tombe dessus et qu'on l'entend, autrement dit qu'on le secourt, cet homme a de la malchance chevillée au corps, voyez-vous.
Là, il s'agit d'un cauchemar. Pourtant, l'interprétation ne semble pas tenir compte des éléments subjectifs du rêveur. Non.
Le propre de ce genre de classification, c'est qu'on fait abstraction de la vie personnel du rêveur. Aujourd'hui, nous sommes habitués, n'est-ce pas, à lier profondément le rêve, et c'est sagesse d'ailleurs, c'est normal, à la vie même de celui qui rêve. Là, comme vous le voyez, comme il s'agit d'un message envoyé par les dieux, n'est-ce pas, et dont le support est indifférent, en quelque sorte, la vie personnelle du bonhomme qui rêve ne compte absolument pas. Nous avons, par exemple, une liste de rêves amoureux. Ben, alors, le bonhomme rêve qu'il fait l'amour avec la déesse Ishtar, avec une autre déesse, avec la reine, avec la fille du roi, avec sa propre fille, n'est-ce pas, et aussi avec des hommes, d'ailleurs. Ben, tout ceci qui, chez nous, serait conditionné par une situation psychologique propre, n'est-ce pas, au rêveur, cette situation est absolument hors cas, rejetée dans l'ombre, n'est-ce pas. Il n'y a que le fait qu'il rêve avec Ishtar, ou qu'il rêve avec la fille du roi, le message n'étant pas le même. C'est quelque chose d'abstrait, voyez-vous. Nous avons beaucoup de listes de rêves dans le traité de l'oniromancie, mais on ne pourrait pas s'en servir pour entrer dans la vie psychique un petit peu et dans la problématique même de ces gens-là.
Nous avions vu que l'interprète des songes ne tenait pas compte de la dimension subjective des rêves, mais cependant, dans quelle mesure ces rêves codés sont-ils un reflet de la vie quotidienne ? Les Mésopotamiens.
Partout dans le monde, la vie onirique est un reflet direct ou indirect, n'est-ce pas, quelquefois inversé, de la vie quotidienne. Mais chez les Mésopotamiens, particulièrement, le traité d'oniromancie est une mine de renseignements sur la vie quotidienne, parce que toutes les situations que l'homme vit, quand il les rêve, n'ont pas la même signification. Et ce sont ces situations de sa vie courante rêvées qui sont codées là-dedans. Par exemple, il y a tout un chapitre de ce traité, n'est-ce pas, sur ce qu'on mange, généralement. Alors, on vous parle d'abord de la viande qu'on peut manger, de diverses viandes, de chiens, de blaireaux, de gazelles, de buffles, etc. Ensuite, on vous parle des plats qu'ils mangent. Et ça, c'est très intéressant pour un domaine qui m'intéresse personnellement, mais qui devrait intéresser tout le monde aussi, qui est le domaine de la cuisine, qui est mal connu un peu partout. Et le traité oniromantique, n'est-ce pas, des rêves de plats qu'on mange, est très riche. Malheureusement, il n'est pas entier, n'est-ce pas. Nos tablettes sont souvent cassées, il y a des lacunes qui sont graves. Mais ce qui nous en reste nous permet de nous faire une idée assez remarquable, pas du menu de ces gens-là. Il y a à peu près une vingtaine de noms de soupes, c'est-à-dire de plats cuits dans un bouillon. Et puis, il y a aussi toute une liste d'aliments préparé ou non préparé, que le rêveur est censé ingérer en rêve. Alors vous voyez, si l'on étudie de près ce traité, on peut en tirer des renseignements extrêmement intéressants sur la vie courante de ces gens-là.
Des renseignements donc, aussi sur les voyages, par exemple.
Beaucoup, il y a beaucoup de directions de voyage, le voyage dans le Liban, le voyage dans l'Asie mineure, c'est-à-dire au pays de Rati, etc. Il y a des renseignements sur le travail aussi, il y a toute une partie du traité, n'est-ce pas, qui est consacrée à la fabrication d'objets. Enfin, dans tous les domaines, la vie onirique n'étant que la vie courante transportée en rêve, n'est-ce pas, traduit cette vie courante et nous renseigne d'une façon extrêmement intéressante et extrêmement riche sur cette vie. À défaut de la vie psychologique des individus, au moins nous trouvons des renseignements sur la vie collective, la vie courante de l'ensemble des Mésopotamiens.
Comment est-ce qu'on passe alors du présage à l'énoncé d'un sens? Est-ce qu'il y a un mode de raisonnement, une articulation particulière?
Il y a plusieurs modes, il y a tout un code difficile, il y a plusieurs modes de raisonnement en réalité. Certains sont fondés sur une certaine homophonie. Par exemple, il y a un rêve où on vous dit, si il rêve qu'il part au pays du Liban, ce qui en acadien se dit Laban, n'est-ce pas, il se bâtira une maison. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a homonymie entre Laban, Liban, et le verbe Labanu, qui veut dire bâtir, faire des briques pour bâtir une maison. Il y a donc des possibilités de jeu, ce que nous appellerions nous jeu de mots, mais qui pour eux n'était pas un jeu de mots. Parce que ces gens-là pensaient que le nom des choses, c'est la chose elle-même. Nous pensons, nous, que le nom vient du nommant. Eux pensaient que le nom vient du nommé. Alors évidemment, le nom et tout ce qui était association de sons, homophonie, n'est-ce pas, avait une grande importance. Voilà un autre exemple encore, toujours dans la même partie du traité de voyage en rêve. S'il part au pays de Hatti, c'est-à-dire chez les Hittites, n'est-ce pas, il aura la trouille. Hattu en acadien, il aura peur. Alors il y a donc cette possibilité. Il y a aussi des cas où la situation, si vous voulez, le passage du présage à l'oracle est commandé par une coutume que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas du pays. Je vous donne un exemple, il y a un rêve, n'est-ce pas, où le bonhomme rêve qu'il tombe à l'eau, il gagne en justice. Ceci, évidemment, pour nous, ne nous dit rien. Mais quand on connaît un petit peu les habitudes du pays, on sait qu'il s'agit de ce qu'on appelle une ordalie. Ces gens-là avaient l'habitude de recourir au jugement ordalique lorsque le juge n'avait pas entre les mains, n'est-ce pas, de quoi trancher le cas qu'il voulait trancher. Il renvoyait ça à la justice divine en obligeant le plaignant ou bien l'accusé ou le défendeur à se jeter à l'eau, fixer une distance pendant laquelle il ne devait pas couler. S'il coulait, c'est que le fleuve, qui avait quelque chose de divin, le déclarait coupable. Et s'il ne coulait pas, le fleuve les carré innocent. Alors ce passage du présage à l'oracle est conditionné par cette vision, par cette idée de l'ordalie, n'est-ce pas ? S'il tombe à l'eau et qu'il s'en tire, il aura gain de cause. Alors souvent d'ailleurs nous ne comprenons pas pourquoi on passe à l'eau.
Les mécanismes de déchiffrement,
oui, ça nous échappe en partie.
Général étrangers, oui, oui. Et parfois même on assiste, quand on étudie le rapport comme ça du signe au signifié, à un renversement complet des valeurs.
Oui, oui, il arrive d'ailleurs, malheureusement, ce n'est pas, enfin, malheureusement pour notre logique à nous, ce n'est pas toujours régulier. Il arrive qu'un rêve de bonheur, n'est-ce pas, soit signe de malheur. On a remarqué, par exemple, que tous les rêves qui impliquent une méconduite grave, n'est-ce pas, un scandale, quelqu'un qui urine dans la rue devant tout le monde, etc., qui boit l'urine de sa femme, dit un texte, ben, ça c'est un grand bonheur. Il y a une sorte de renversement des valeurs, n'est-ce pas, ce qui mérite condamnation devant les hommes, les dieux annoncent, en l'envoyant un rêve, n'est-ce pas, qu'ils veulent procurer un bienfait à celui qui est intéressé. Donc ça arrive comme ça aussi. Ouais.
Et alors ces rêves d'émission d'urine ou bien ces rêves d'inceste, est-ce que il se prête quelque part à une interprétation psychanalytique?
Absolument pas, non, absolument pas, non. C'est, comme je vous disais tantôt, c'est simplement le fait lui-même, brutal, sans aucune attache profonde à la personne du rêveur qui est mis en question. C'est pas,
Est-ce que ce degré d'abstraction a toujours existé? Ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le rêve était beaucoup plus lié à la vie subjective?
Mais il l'était certainement aussi. Naturellement, il a toujours été, le rêve est toujours lié en soi à la vie subjective, mais on ne le voyait pas comme ça. Alors je ne pense pas que, même en remontant dans l'Antiquité, nous puissions dire qu'on ait vu le rêve autrement.
L'avenir dévoilé par le nigromancie, est-ce qu'il se présente comme un futur implacable, comme ça, inéluctable ?
Non, pas du tout, non, justement, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas l'avenir, mais, disons, métaphysique, ce qui doit arriver absolument, qui est prédit dans les oracles des rêves, c'est l'avenir que j'ai appelé judiciaire. Parce que les dieux sont censés, quand ils écrivent leur message, décider du sort du bonhomme, n'est-ce pas, en question, de l'intéressé, celui qui rêve, n'est-ce pas, dans ce cas-là, et d'écrire leur sentence. Ce message, si vous voulez, du rêve, le message écrit, c'est une sentence plutôt, n'est-ce pas ? Et comme toute sentence, on peut revenir dessus.
Donc il y a une élasticité
et en réalité, non seulement on peut revenir dessus, mais on peut inciter les dieux à revenir dessus, n'est-ce pas ?
Et on peut biaiser avec les oracles.
C'est une décision. Le roi peut toujours revenir sa décision. Dans le code d'Hammurabi, il est dit qu'une femme adultère doit être jetée à l'eau avec son amant. Mais si le mari pardonne à sa femme, le roi peut pardonner aussi à l'amant. Autrement dit, la sentence est absolue, si vous voulez, dans le code, mais on prévoit une clause par laquelle, n'est-ce pas, elle n'est pas absolue, justement. Eh bien là, c'est la même chose. Dans le rêve, pris comme objet de la divination déductive, l'avenir est sentencié. Il est mis en sentence, c'est une décision des dieux, n'est-ce pas ? Mais non seulement les dieux peuvent revenir sur la sentence en question, mais il y a des manuels entiers de prières pour les faire revenir avec des rituels, avec un mélange de gestes, si vous voulez, plus ou moins symboliques et de prières, qui incitent les dieux à revenir sur leurs rêves. Je peux vous en citer un, par exemple, qui consiste simplement en une prière. Le rituel qui le prescrit vous dit ceci: lorsque l'homme a fait un mauvais rêve, le matin, avant de se lever, avant de retrouver sa position verticale qui le met en contact avec la vie normale du jour, quand il est encore dans cette vie mystérieuse de la nuit, en quelque sorte, il doit dire ceci.